Et donc, depuis Pâques, nous disons que le Christ est ressuscité, cette fête de la résurrection. Et depuis Pâques, nous prêchons sur ce thème et nous disons tout de mille manières que Jésus est ressuscité. Pour nous, ça semble un peu incroyable et extraordinaire, cette histoire de quelqu'un qui ressuscite des morts. En fait, si on lit bien la Bible, dans le Nouveau Testament, je vais vous dire, la résurrection, c'est une chose plutôt banale. On a l'impression qu'il n'y a que Jésus qui ressuscite dans le Nouveau Testament, mais pas du tout. Le Nouveau Testament est rempli de personnes qui ressuscitent, et on n'en fait pas des fêtes que l'on célèbre tous les ans. Et donc, il faut se replacer dans la mentalité des chrétiens de l'époque, et se dire qu'à l'époque, eux n'avaient aucun problème pour dire que quelqu'un soit ressuscité des morts. Et je vous disais qu'on en trouve pas mal d'autres dans l'Évangile. Tenez, par exemple, Lazare, dans l'Évangile de Jean, où Jésus lui dit « Lazare, sors de cette tombe ». Lazare est ressuscité, mais Saint Lazare, pour nous, c'est plus une gare qu'une fête que l'on célébrerait à grand renfort de chants, de Pâques ou de je ne sais quoi tous les ans. Finalement, on s'en moque un peu que Lazare soit ressuscité. Ou alors encore, au moment de la mort du Christ, tous les évangiles nous disent qu'au moment où Jésus meurt, eh bien, il y a les saints qui se lèvent dans les tombeaux et qui ressuscitent. Alors, tous ces saints qui ressuscitent au moment de la mort du Christ, qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une fête de la résurrection des saints au moment de la mort du Christ ? Ou encore, il y a cette jeune fille aussi que Jésus ressuscite, qui était morte, et par cette formule magique, Talita Kumi, la jeune fille ressuscite. Il y a même, vous savez, dans les Actes des Apôtres, Paul qui fait un discours tellement ennuyeux et long à ses amis, qu'il y avait un jeune homme qui était assis sur le bord du balcon, et il s'ennuie tellement devant le discours de Paul qu'il s'endort et qu'il tombe par la fenêtre, et il se trouve mort. Et les Actes des Apôtres nous disent que ce jeune homme va être ressuscité, et donc pourquoi n'en faisons-nous pas non plus un sauveur ? Ou encore en Matthieu 10, verset 8, ça c'est intéressant. Jésus envoie ses disciples en mission et il leur dit « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts et pardonnez les péchés. » Et donc, dans la logique du Nouveau Testament, j'imagine que tout le monde pensait qu'il l'avait fait. Et donc, les disciples vont en mission, ils guérissent les malades, ils pardonnent les péchés et ils ressuscitent les morts. Tout ça pour vous dire que pourquoi est-ce qu'on ne fête pas tous ces gens-là qui sont ressuscités ? Parfois avant même le Christ. Eh bien, parce que je crois que quand nous voulons nous fixer sur l'idée même de la résurrection de Jésus, on se trompe. Aujourd'hui, on en fait une grande affaire parce que pour nous, nous ne croyons pas à la résurrection des morts, en fait. Enfin, mis à part celle de Jésus, si vous êtes des bons chrétiens. Mais dans le fond, on n'y croit pas et on ne l'attend pas. Et du coup, quelqu'un qui ressuscite, c'est un événement. Et donc, nous avons tendance à dire, la résurrection du Christ est vraiment extraordinaire, quelqu'un qui ressuscite, on n'a jamais vu ça. Alors que dans la mentalité du Nouveau Testament, la résurrection, c'était pas beaucoup plus que lorsque vous guérissez de votre grippe. Autrement dit, la résurrection du Christ n'a pas d'intérêt en elle-même, si je puis dire, je pousse un peu les choses au bout, mais si elle a un intérêt, c'est parce qu'elle est faite dans un contexte particulier, et parce qu'elle a un sens particulier. Autrement dit, oubliez la question de la résurrection, de savoir si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, si Jésus est vraiment relevé en chair ou en os ou pas, ça n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que la résurrection de Jésus a de particulier que n'ont pas les autres, et qu'est-ce que cela peut nous dire ? Pour ça, il faut comprendre que la Bible, effectivement, à chaque fois essaye de prêcher quelque chose. Elle essaye de nous enseigner quelque chose. Et pour comprendre ce que dit la Bible, il faut avoir une certaine culture biblique un petit peu générale, parce que la Bible parle toujours un peu par symbole, par réminiscence de textes d'un autre endroit. Et finalement, c'est une culture globale. C'est pourquoi, pour bien connaître la Bible, il faut l'avoir lue entièrement au moins une fois. C'est faisable, c'est à la portée de tout le monde. Donc, il y a, en particulier dans ce texte de la résurrection de Jésus, dans Jean, c'est une sorte de rébus qu'on peut essayer de décrypter. Première question que je poserai, et ce qui m'a frappé à moi dans ce texte, c'est la suivante. Où se passe cet événement d'après l'évangile de Jean? Là, il faut lire attentivement et vous verrez que tout se passe dans un jardin. C'est ce que dit le texte. Par exemple, en Jean 19, 41, on nous dit « Il y avait là un jardin où Jésus avait été crucifié et là un tombeau où personne n'avait été mis ». Et un peu plus loin, Marie, qui rencontre quelqu'un, qu'elle comprend que c'est Jésus, au début, elle dit « c'est le jardinier ». Et donc, par deux fois au moins, on nous dit que tout cela se passe dans un jardin. Maintenant, vous disais-je, faites appel à votre culture biblique. Comme là, c'est un culte où il y a des enfants et des adolescents, j'ai choisi une référence biblique qui ne soit pas trop compliquée, et j'imagine que celle-là, au moins, vous la maîtrisez. Si on vous parle de jardin dans la Bible, à quoi pensez-vous? Réponse, évidemment, au jardin d'Éden, c'est-à-dire au paradis. Oui, c'est ça le jardin dans la Bible. Le jardin, c'est le jardin d'Éden, le jardin des délices, puisque Éden, ça veut dire délices en hébreu. C'est le jardin du paradis terrestre, où il y a Adam et Ève au départ. Et vous savez que de ce jardin, Adam et Ève ont été chassés parce qu'ils avaient voulu se prendre pour Dieu lui-même. Il y avait au centre de ce jardin un arbre, l'arbre de la vie, et ils cueillaient de cet arbre. Et Adam et Ève, faisant n'importe quoi, ils sont mis dehors du jardin et ils ne peuvent plus accéder à l'arbre de la vie. Et donc, moi, ce que je lis dans ce texte, c'est que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous fait entrer dans le jardin. Et si on suit Jésus dans sa mort et sa résurrection, nous sommes catapultés dans le jardin d'Éden. Et en effet, ce jardin d'Éden, c'était cette situation extraordinaire d'Adam et Ève qui étaient dans la plénitude de la présence de Dieu. Et cette situation extraordinaire de paix, de bonheur, de tranquillité, de présence de Dieu dans lequel ils étaient est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ils vont être chassés de cela. Ils vont être chassés de cela par le péché originel qui n'est pas une faute historique, mais qui est la faute qui nous menace tous et qui est à l'origine de toute faute, qui est en fait l'égoïsme. Ils ont voulu se prendre eux-mêmes pour Dieu et se dire « moi je m'en fiche de Dieu, des autres, de l'universel, ce qui m'intéresse c'est moi, moi, moi et rien que moi ». Et quand on se comporte comme ça, eh bien on est chassé du paradis. Non pas que Dieu les ait mis dehors, mais c'est qu'on s'exclut soi-même de la présence de Dieu et de la joie, du bonheur, de la félicité et des délices. En effet, l'égoïsme, ce n'est pas juste un vilain défaut que vos parents vous critiquent en disant « il ne faut pas être égoïste, ça n'est pas bien ». L'égoïsme est la première source de son propre malheur. Dès que l'on est retourné sur soi-même, dès que l'on se prend soi-même pour le centre du monde, tout va de travers. Et on n'en a plus aucune possibilité, ni de donner, ni d'aimer, ni de recevoir. Or, le seul bonheur dans la vie, c'est de vivre avec les autres et de vivre en paix. Ce n'est pas de se prétendre soi-même pour Dieu, parce que se prendre pour Dieu, on peut le faire deux minutes, mais on se rend très vite compte que c'est impossible, parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Et il y a en nous tant d'échecs, tant d'erreurs, tant de manquements, tant de tristesse, tant de deuil et tant de peur de l'avenir ou d'autres choses, comment puis-je croire que je vais trouver en moi-même et en moi seul toutes les ressources pour vivre heureux, pour orienter ma vie et savoir ce que je vais faire? Et donc oui, Adam et Ève ont été, je dirais, exclus de ce bonheur, de cette joie, de ce sens de la vie, parce qu'ils se comportaient mal, et c'est ce qui nous menace tous. Alors comment revenir dans le paradis? Eh bien, idéalement, il faudrait retrouver la perfection originelle. Oui, oui, je vous le dis, vous serez heureux dans la félicité et le bonheur si vous êtes capable de tout donner aux autres et de vivre sans cesse dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Ça, c'est vrai. Maintenant, avouez que ça n'est pas très commode et que ce chemin de perfection nous est à peu près inaccessible. Alors, comment faire? Eh bien, nous avons là une bonne nouvelle par le Christ, justement, c'est que Jésus, lui, connaît une entrée secrète dans le paradis. Et Jésus, lui, connaît un raccourci pour retourner dans le paradis, même si nous ne le méritons pas. C'est-à-dire que Jésus, lui, nous fait entrer dans le jardin. Et si nous suivons le Christ, eh bien, nous sommes catapultés à l'intérieur même du jardin, même si nous ne le méritons pas. Et tenez, autre chose d'ailleurs, qui est dans la proximité d'entre ces deux textes de la Genèse et de Jean, là, petite mention qui fait appel à des choses un peu plus techniques, le jardin, vous le saviez, mais est-ce que vous savez, dans la Genèse, on nous dit qu'Adam et Ève sont chassés du paradis et que Dieu met à la porte du paradis, nous dit-on, deux chérubins avec des épées tournoyantes pour garder la porte. Et donc, il y a à l'entrée du paradis deux anges qui gardent la porte du paradis. Et tiens, justement, dans l'histoire de Jean, qu'est-ce que Marie voit quand elle entre dans le tombeau ? Elle voit deux anges, là où était placé Jésus. Et du coup, je comprends quelque chose, moi. C'est que l'entrée du paradis, cette entrée secrète, eh bien, c'est Jésus lui-même, c'est le Christ. Et ça, je peux l'entendre de différentes manières. Soit de dire la porte du paradis, ce qui me permet d'accéder vraiment à quelque chose de merveilleux dans ma vie, eh bien, c'est soit le Jésus mort, là, le gisant, là où il était. Et donc, pour entrer dans le paradis, je dois mourir comme lui, je dois aller jusqu'au bout de son témoignage et je dois m'offrir comme lui en sacrifice, je dois aimer comme lui et donc marcher sur les traces de Jésus. Et si je vais comme Jésus jusqu'à donner ma vie pour les autres, un peu une façon de parler, mais on donne toujours une partie de sa vie pour les autres, eh bien à ce moment-là, je suis dans une porte qui me fait entrer dans le paradis, c'est-à-dire dans cette félicité qui n'est pas une promesse pour l'après-mort, mais qui est dès ici-bas possible. Donc voilà l'entrée du paradis, en effet, c'est Jésus lui-même. Ou alors, on peut le comprendre autrement, en disant, cette porte du paradis, ce n'est pas simplement la croix du Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la théologie de la croix, ceux qui insistent sur la mort du Christ, sur la souffrance, sur le sacrifice du Christ. Mais moi, qui ai un tempérament plutôt positif, j'aime mieux, plutôt que de m'intéresser à la croix, m'intéresser justement à la résurrection. Et donc la porte du paradis, c'est le Jésus ressuscité, non pas le Jésus historique, mais le Christ de la foi, c'est-à-dire ce qu'il représente, la parole de Dieu incarnée, comme dit Jean au début de son évangile, où il dit cette parole de Dieu, cette parole de vie, elle s'est trouvée présente pleinement en Jésus-Christ. Et donc c'est ça la porte du paradis. C'est la parole de Dieu, c'est le message du Christ, c'est son amour, et qu'il faut passer par là pour entrer dans le paradis. Et donc il y a dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, une parole qui nous fait entrer dans le jardin des délices. Ça, c'est une idée très évangélique, et en particulier dans Jean, on trouve ça. Dans Jean, au chapitre 10, au verset 9, Jésus dit « Je suis la porte ». Voilà, je suis la porte, c'est Jésus qui dit ça. Et donc c'est lui-même Jésus qui est le passage secret pour entrer dans le paradis. C'est lui le secret de tout. Il faut passer par son évangile, à la fois savoir que quand on passe par l'évangile, on entend quelque chose qui nous dit que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne, et que qui que nous soyons, nous méritons de vivre, et que nous méritons d'être appelés enfants de Dieu. Donc déjà ça, c'est la première chose. Passer par le message du Christ, l'accepter pour soi-même et accepter de savoir que nous sommes aimés et pardonnés. Ça vous paraît simple, mais ça n'est pas si simple, en fait. Il faut travailler à cela et lire l'Évangile et le relire pour comprendre que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Tout à l'heure, je vous disais que si on voulait une vie parfaitement heureuse, il fallait être parfait. Vous ne l'êtes pas, moi non plus, personne ne peut l'être. Eh bien, le chemin secret, c'est celui de la grâce. C'est Dieu lui-même qui dit, écoute, tu n'es pas parfait, mais ça fait rien, viens chez moi et je te donnerai tout le bonheur du monde, même sans être parfait, sans rien du tout. Et donc, c'est ça, passer par son évangile, accepter que nous soyons aimés et sauvés par le Christ, et puis passer par la parole, passer par l'évangile, eh bien, c'est aussi essayer de vivre dans sa vie ce qu'il nous demande. Le chemin du bonheur, il est simple, c'est ce que dit Jésus. Il faut aimer, il faut pardonner, servir, donc se considérer comme serviteur, respecter l'autre, faire attention aux plus faibles, et puis surtout vivre de la seule réalité essentielle et fondamentale de notre vie, qui est la gratuité. Dans nos églises, on appelle ça la grâce, mais moi, en français courant, j'appelle ça la gratuité. Et quand on sait vivre de gratuité, c'est-à-dire quand on sait donner gratuitement, sans rien attendre, quand on sait accepter la gratuité, accepter d'être aimé par un ami, accepter d'être aimé par ses enfants, par son conjoint, accepter de recevoir de ceux qui vous aiment, eh bien là, la vie devient une merveille. Et donc oui, le seul chemin du paradis, c'est ça, c'est celui de la grâce. On ne nous demande pas d'être parfait, mais simplement, à un moment donné, d'abandonner cette logique de la rétribution où l'on pense que tout se mérite, tout se gagne et tout se paye, pour dire le seul chemin du bonheur, de la félicité, de la joie et du paradis, c'est la grâce, c'est la gratuité, c'est de savoir donner et de savoir recevoir. Ça, c'est le chemin. Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la porte, il est le chemin. Ce n'est pas que ceux qui ignorent le Christ seraient forcément dans l'erreur ou dans l'obscurité, mais que vous connaissiez Jésus de Nazareth ou pas, que vous soyez chrétien ou bouddhiste ou de je ne sais quelle religion improbable de la forêt vierge, le seul chemin du paradis, c'est l'évangile que prêche Jésus, c'est-à-dire la grâce, l'amour, le service et le don. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je crois d'ailleurs que cette idée, c'est fondamental pour moi, que Jésus, il est la porte. Donc son évangile, sa prédication, son témoignage. Et curieusement, il semble même que cette idée que Jésus soit la porte ait été une des choses au cœur de la première prédication chrétienne. En effet, j'ai trouvé un témoignage très intéressant d'un ancien historien de l'Église qui s'appelait Papias, qui a écrit une histoire de l'Église en 120 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 20 ans après l'Évangile de Jean. Enfin, on est vraiment dedans, quoi. Et Papias nous raconte que Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques, ça on le sait, et que Jacques, frère du Seigneur, était appelé le Juste, que c'était un personnage extraordinaire. Et que les Juifs, les Judéens qui avaient crucifié Jésus n'aimaient pas Jacques non plus, et ils ont voulu le pousser dans ses retranchements. Et donc Papias nous dit qu'ils font monter Jacques sur le sommet du temple et ils projetaient de le pousser d'en haut pour le tuer. Et ils disent à Jacques, « Dis-nous, qu'est-ce que c'est la porte du Christ ?» Et Jacques rend grâce en disant, « Jésus, il est assis à la droite de Dieu et il est dans toute la gloire. » Et donc, à ce moment-là, les Juifs ne sont pas contents, ils le poussent du sommet du temple, il tombe, il ne se tue pas tout à fait, et ils le massacrent à coups de pierre. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, il semblerait qu'à ce moment-là, si ce texte est authentique, ce que je crois, eh bien l'enjeu, c'était ça. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de porte? Et donc, oui, Jésus est la porte. Voilà, il n'y a que ça à savoir. Jésus est la porte. C'est le passage par lequel on peut accéder au paradis et on peut accéder à une vie à peu près réussie, heureuse et pleine de félicité. Et puis, ça n'est pas tout à fait tout, parce qu'il y a encore autre chose. En effet, Jésus ressuscite dans un jardin, je vous l'ai dit. Mais d'après Jean, et c'est plus curieux parce que les autres évangiles ne le disent pas comme ça, d'après Jean, Jésus est aussi crucifié dans le jardin. Bon, Jean 19, 41, il y avait là, dans le jardin, là où Jésus avait été crucifié, un tombeau, etc. Et donc, au centre de ce jardin, qu'y avait-il ? Réponse, la croix du Christ. Alors là, je vais vous faire un petit tour de passe-passe linguistique. La croix du Christ est au milieu du jardin. Or, souvent dans le Nouveau Testament, au lieu de parler de la croix, on parle simplement du bois. Et par exemple, en Acte 5, 30, on dit « Jésus a été pendu sur le bois ». Et même parfois, nos traducteurs, quand il y a écrit « Jésus est sur le bois », ils traduisent par « croix », parce que le bois, c'était la croix. Bon, Je continue, ce coup-ci en passant par l'hébreu. L'hébreu, pour dire bois, le bois, il utilise un mot etz. Et que etz, ça veut dire le bois, et ça veut dire aussi l'arbre, et ça veut dire aussi le fruit de l'arbre. Et du coup, par mon petit tour de passe-passe, j'en arrive à la chose suivante. La croix de Jésus qui est au milieu du jardin, c'est le bois au milieu du jardin, et c'est donc aussi l'arbre au milieu du jardin. Et maintenant, je rappelle, je fais encore appel à vos souvenirs, l'arbre au milieu du jardin, qu'est-ce que c'est ? C'est l'arbre de vie, évidemment. L'arbre de vie dont on nous dit que si on en mange, eh bien on a la vie. C'était ça l'histoire de l'Éden. Et donc voilà ma révélation d'aujourd'hui. Jésus est non seulement la porte qui mène à la vie, mais il est même lui-même l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et ça, ce n'est pas une grande découverte que je fais. Dans les premières représentations chrétiennes, on aimait beaucoup représenter l'arbre de vie. Et très tôt, les théologiens ont compris que la croix de Christ était en fait l'arbre de vie au milieu du jardin. Saint Augustin le développe et d'autres encore. Et donc, voyez, Jésus est plus que le chemin de paix et de félicité. Jésus, c'est un enjeu vital, c'est l'enjeu même de la vie. Et on peut le comprendre de différentes manières, soit que Jésus, il y a dans le Christ une source de vie éternelle, ça vous le savez, parce que Jésus donne une dimension transcendante à notre vie et qu'il nous donne une dimension au-delà du visible, au-delà du physique, au-delà du matériel et que cette dimension, elle est pour toujours. Donc oui, certainement que l'Évangile donne à notre vie une autre dimension qui, elle, est au-delà du matériel et qui est éternelle. Mais même sur terre, je dirais que Christ, c'est la vie. Le Christ est une source de vie pour nous. Et le Christ est vraiment une nourriture, une force dans notre vie, une source d'espérance, une source de résurrection. Parce que nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter, à revenir à la vie. Dans toutes ces petites morts qui sont dans nos vies, dans tous nos échecs, nos difficultés, eh bien, il y a en Christ une ressource extraordinaire de vie, de relever. Il peut redonner de la force, de l'enthousiasme et de la vitalité. Et il n'y a qu'à cueillir les fruits du Christ, se mettre en présence du Christ. Dès que vous vous approchez du Christ, par la prière, par la lecture, vous êtes au pied de l'arbre. Vous n'avez qu'à penser à Newton avec sa pomme qui tombe, et si vous êtes au pied de l'arbre, vous recevez les fruits de l'arbre de vie qui vous tombe directement dans le bec. Ça, c'est formidable. Et puis, il y a... j'aime cette image de l'arbre au milieu, parce que la tradition juive dans le Midrash... parle de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, et elle dit ce qui est merveilleux dans l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est que s'il est au milieu, on peut y accéder par tous les côtés à la fois, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'accès possibles. Et donc j'en reviens à mes histoires de théologie et de résurrection. La seule chose qui compte, quoi que vous croyez concernant la résurrection du Christ, que vous vouliez croire à une résurrection corporelle, que vous disiez c'est un message imagé de l'expérience spirituelle des disciples ou ce que vous voulez, quelle que soit votre façon de croire, de lire l'Évangile ou d'être en rapport avec la foi, ayez la vôtre, parce qu'on peut accéder au Christ de mille manières. Et donc votre chemin sera le bon. La seule chose, approchez-vous du Christ à votre façon et allez vers lui, vers la source de la vie. Christ est une vraie source de vie. Je le crois très profondément. Et j'aime tellement cela que ça a été, quand j'étais plus jeune, mon verset préféré. J'en ai eu plusieurs à la suite, mais celui-là, ça a été à un moment donné quelque chose qui me touchait, en Philippiens 1, 21, où Paul dit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Et j'aimais tellement ce verset que j'avais gravé en grec sur un petit luth qu'on avait fabriqué avec mes frères, et sur la rose, j'avais écrit « Emoi tozen Christos ». Pour moi, la vie, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'était ma devise. Et j'aimais ça, cette idée. Parce que la croix du Christ est comme l'arbre de la vie, et le mieux que nous puissions faire, c'est pas d'essayer d'être parfait, c'est simplement de recevoir d'un autre la vie que nous ne pouvons pas créer en nous-mêmes. Et puis, si on met l'arbre au centre du jardin, nous pouvons faire de notre propre vie un jardin. Et notre vie devient le paradis terrestre si notre jardin personnel, notre jardin privé et intime, s'il y a au centre la croix du Christ, et si au centre de notre vie il y a l'arbre de vie, la croix du Christ, si nous construisons notre vie centrée autour de ce message, je dirais, d'amour, de fraternité, de grâce du Christ, alors notre vie devient comme une sorte d'image du paradis terrestre. Et nous pouvons nous nourrir des fruits du Christ, comme ce que dit encore Jésus dans l'évangile de Jean, « Celui qui me mange vivra éternellement », ou à la Sainte Cène, quand on partage le pain et le vin, de dire « Le Christ est vraiment la nourriture de votre vie, source de force par le pain, source de joie par le vin, le Christ est le carburant de notre propre existence ». Et donc nous voyons dans ce magnifique texte de résurrection que, par-delà des croyances dans celui qui est mort, qui revit, je n'en sais rien, une bonne nouvelle qui, moi, m'enchante, c'est de dire, eh bien, tout à coup, la porte du paradis est ouverte. Et nous sommes tous invités à y entrer. « Venez, dit Jésus, car tout est prêt. » Jésus ouvre la table. Jésus frappe à la porte et il dit, « Celui qui m'ouvre, je viendrai prendre le repas avec lui. » « Venez prendre du fruit de l'arbre de la vie, gratuitement, sans argent, sans rien payer. » Et cet arbre, mettez-le au centre de votre vie, et alors vous vivrez dans le paradis, et vous serez dans tous les délices. Et cela, ce n'est pas notre mérite, c'est simplement le cadeau gratuit du Christ, c'est le don de la grâce, et c'est pour nous une des plus grandes chances que nous puissions avoir dans notre vie. Amen.